Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Ce matin, je vous propose de déguster quelques bouchées d'histoires culinaires françaises. Coup de projecteur sur quelques histoires vraies et quelques légendes qui entourent certains mets et pratiques alimentaires. Nous verrons quelles sont les influences multiples qui ont construit notre cuisine quotidienne nationale. Une cuisine tricolore qui puise dans un mélange de goûts et de coutumes issus du monde entier. Un héritage international qui démontre qu'il est vain de prétendre qu'il existerait une cuisine française monolithique d'une pureté immuable. Nos invités nous rappelleront par exemple que notre croissant hexagonal est un cadeau de l'Autriche, que notre cuisine provençale serait inimaginable sans les tomates venues d'Amérique, ou encore que nos premiers artisans chocolatiers basques doivent tout à la fève de cacao importée du Mexique. Bref, qu'on le veuille ou non, notre art culinaire reste très cosmopolite, n'en déplaise aux contempteurs de certaines modes alimentaires comme le kebab, qui reste après tout un sandwich à base de pain, de tomates, d'oignons et de viande, et qui peut être interprété de façon très hexagonale. Pas de quoi en faire un fromage de chèvre ou de roquefort que nous évoquerons également ce matin. Avec nous, un couple à la ville pour un livre écrit à quatre mains, fromager français, Stéphane Hainaut, et une historienne américaine, Jenny Mitchell. Pour m'aider à les cuisiner, la journaliste passionnée d'histoire gastronomique, Nathalie Hellal. Toutes vos questions et anecdotes sur vos plats régionaux au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Dites-nous quel rapport vous entretenez avec notre cuisine quotidienne. Elle boit du petit lait à l'idée de participer à cette émission. Bonjour Guillaume Todicino.
Bonjour Ali. Je peux vous dire que c'était merveilleux votre introduction.
Ah ben merci.
La reine
de la blanquette de veau.
C'était gourmand, oui.
Et qui n'est pas prête de divulguer sa recette secrète.
Non, on avait dit qu'on le faisait en fin de saison.
Oui, si vous voulez, oui. Mais je l'attends avec impatience. Si même à moi, vous n'avez pas révélé cette recette.
Voyez. Alors si j'arrive, parce que nos invités sont tellement brillants, si j'arrive à en placer une, je pense que je parlerai d'un film qui est plein de beurre.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Ali Rebi.
Bonjour Stéphane Hainaut.
Bonjour Ali.
Bonjour Jenny Mitchell.
Bonjour.
Vous êtes fromager Stéphane Hainaut et Jenny Mitchell, vous êtes historienne et chercheuse au King's College, spécialiste dans les groupes armés non étatiques. Couple à la ville, vous publiez un livre absolument passionnant, Histoire de la France à pleines dents, sous-titré Le grand roman national à savourer. Alors Pierre Hiverna sur France Culture remarque très justement que l'on aurait dû traduire le titre de votre livre de la façon suivante, Histoire de France en bouchée, Stéphane Hainaut.
Oui, alors c'est vrai que le titre en anglais c'est A Bite-sized History of France, donc, et c'est vrai que l'idée c'est vraiment de qu'on utilisait des petites légendes gastronomiques parties de bouchée pour à chaque fois raconter et parler d'une période de l'histoire de la France. Et finalement, c'est vrai que l'histoire gastronomique française, elle est tellement riche qu'on a pu finalement commencer des Romains, l'invasion de la Gaule par les Romains et l'introduction du vignoble en France, et finir finalement par après la Seconde Guerre mondiale et la peur de coca-colonisation que certains éprouvaient en France à la fin de la Seconde Guerre mondiale et au début de la Guerre froide.
Alors, votre histoire d'amour est à l'origine de ce livre. Vous vous rencontrez dans le sud de Londres. Vous, Jenny Mitchell, l'historienne américaine, vous êtes étonnée par la profusion des fromages français et la variété de leur goût. Bah, ça tombe bien, vous êtes tombée amoureuse d'un fromager, Stéphane Hainaut. Jenny Mitchell, c'est l'amour qui a commandé votre histoire, évidemment, votre histoire gastronomique, personnelle, là, tous les deux.
C'est vrai que c'est une histoire d'amour, cet amour pour un homme français qui va devenir un amour de la gastronomie. Et c'est vraiment mon épouse Stéphane qui m'a permis de rentrer dans cette gastronomie. Il m'a présenté des vins, des fromages, il m'a permis de voir toute cette diversité. Et je pense que pour une Américaine, c'est une des choses les plus surprenantes, réaliser que la cuisine française, c'est pas seulement la haute cuisine dont on parle, hein, mais c'est des centaines de fromages dont peut-être seulement quelques milliers de personnes ont entendu parler, hein, et on vivait à Nantes, dans la vallée de la Loire, et donc c'était quelque part un endroit idéal pour avoir tous ces fromages à portée de la main.
Alors vous tombez amoureuse non seulement du fromager, mais également de l'identité culinaire française.
the French culinary identity.
Exactly. How could you not?
Tout à fait. Et comment l'inverse serait-il vrai?
Alors vous, Stéphane Hénaud, vous avez sérieusement enquêté pour être à la hauteur des interrogations de votre dulciné. Hein.
Oui, hein, et c'est tout à fait. Et c'est surtout, je crois qu'en fait l'histoire commence aussi avec un maroilles que ma femme a eu du mal à accepter, à la maison. C'est un jour, je ramenais un maroilles à la maison, qui est un maroilles que je définirais comme étant un fromage bien affiné, qui a du caractère.
Oui, on peut dire ça.
Oui, hein, on peut dire. Hein. Et il se trouve que ce que moi je décrivais comme étant du caractère, ma femme décrivait comme étant une odeur qui se peut que sortir des tréfonds de l'enfer. Et puis en fait, elle m'a banni ce fromage de notre appartement. Et donc là, pour moi, il fallait que je trouve un moyen pour qu'elle accepte ce fromage. C'était clair que les côtés gastronomiques du fromage, elle l'accepterait pas. Mais comme c'est une passionnée d'histoire, j'ai essayé de lui parler d'histoire du maroilles, qui est d'ailleurs une histoire, ma foi, très intéressante. Hein. C'est un fromage qui a plus de 1000 ans d'histoire, qui a été créé par les moines de l'abbaye de Maroilles, il y a plus de 1000 ans, et qui d'ailleurs l'aimait tellement qu'en fait, il taxait aussi les paysans locaux sous la forme de ce maroilles. Et il demandait d'ailleurs aux paysans d'affiner ce fromage, ou cet impôt, pendant plus de 100 jours avant de le collecter. Et donc voilà, je lui racontais quelques histoires sur le maroilles, et finalement, elle a commencé à être persuadée que bon, allez, on va peut-être laisser ce fromage qui est pas seulement un fromage, mais un morceau comestible de l'histoire de France, on va quand même le laisser rentrer chez nous dans notre appartement.
Nathalie Elal.
Mais vous avez commencé super soft avec le maroilles, parce qu'il y a quand même le puant de Lille ou le cœur d'Arras. Je suis désolée, alors là, ça refoule. Oui. Alors vraiment, vraiment, de quoi dégoûter une américaine et toute la nation. Hein,
bon, et le Munster, c'est pas mal aussi.
Oui, c'est
le
pas
Munster,
mal.
Oui. Ah, le vieux Lille, c'est vrai que ça aurait été bien. Hein. C'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Mais alors, bon, oui. Et puis il y en a d'autres hein, aussi, des fromages français comme ça, qui sont quand même bien,
bien catalogués.
Alors, vous nous proposez de savoureuses bouchées d'histoire gastronomique. C'est un voyage passionnant qui permet de comprendre que notre cuisine nationale est le fruit d'un héritage cosmopolite, hein, n'en déplaise aux... Vous l'écrivez à plusieurs reprises dans votre livre, aux nationalistes qui fantasment une histoire gastronomique hexagonale, figée, monolithique, qui n'aurait subi aucune influence étrangère.
Oui, c'est surtout cette idée que certaines personnes ont, que finalement, on devrait manger, pour être français, il faudrait manger d'une certaine manière. Puis finalement, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que finalement la cuisine française, c'est un résultat de sa capacité à intégrer puis à accepter de diverses influences. Donc on commence même dès qu'on commence chez les Romains, c'est les Romains qui ont introduit le vignoble en France. S'il n'y avait pas les Anglais qui avaient contrôlé le Bordelais pendant si longtemps, le vin de Bordeaux, ça serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les Hollandais, c'est eux qui ont introduit le cognac à Cognac, enfin à côté de La Rochelle. Et ainsi de suite, les Arabes ont apporté le sucre et puis le processus de distillation en France, et etc., etc. Donc en sachant tout cela, finalement, je veux dire que la cuisine française cesserait d'évoluer aujourd'hui, ça paraît bizarre.
Je vous cite, hein, le recours aux traditions alimentaires et culinaires pour asseoir l'idée d'une culture française pure et homogène paraît d'autant plus stupide quand on sait que les croissants, les vignobles, les tomates, les pommes de terre, le sucre ou le chocolat furent le résultat d'importations.
Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'au final, nous, ça nous paraît... C'était quelque chose qu'on s'est rendu compte quand on a écrit le livre. Il y avait aussi toutes ces histoires de certaines mairies qui voulaient obliger d'avoir de la viande de porc, par exemple, dans leur cantine, ou qui étaient énervées à cause du kebab, de kebab qui se vendait dans le centre-ville de France, et dans des centres-villes de villes. Et puis, des histoires comme ça, qu'au final, on trouvait ça étrange par rapport à ce que nous... On apprenait sur l'histoire de France et l'histoire de sa cuisine.
Et vous célébrez également dans votre livre l'excellence de nos terroirs, sans tomber, sans sombrer dans un nationalisme de mauvais aloi. C'est aussi une ode à nos terroirs, ce livre.
Ah, tout à fait. Hein, c'est vraiment une ode. Oui, je crois que c'est une ode au terroir français. Et puis c'est notre découverte du terroir français. Puis c'est comment tous les deux, en fait, finalement, on est presque tombés amoureux du terroir français quand on est venu ici ensemble, parce que beaucoup d'histoires qu'on écrit dans le livre, finalement, on les a découvertes ensemble. On a fait des recherches ensemble pour trouver les choses. Et je crois qu'on est tombés tous les deux amoureux du terroir français. Pas juste ma femme qui était donc américaine, mais vraiment tous les deux.
Nathalie Elal.
Oui, effectivement, la gastronomie française, c'est un ensemble de juxtapositions, de métissages divers. Mais je pense que ces métissages n'auraient pas pu prendre s'il n'y avait pas eu le génie français de certains grands chefs. Et ça, c'est très important de le souligner. Il y a eu des évolutions constantes grâce à des tournants culinaires dans l'histoire depuis déjà le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ces grands chefs qui ont fait cet héritage incroyable que nous avons.
Carême, est-ce que Prokofiev.
Mais bien avant aussi Taïwan. Enfin, il y en a eu plein.
Jenny Mitchell, au terme de votre enquête, avez-vous compris le lien quasi religieux que les Français vouent à leur cuisine, à leur terroir, et pourquoi nous passons autant de temps à table à parler de cuisine? Pourquoi nous passons autant de temps et de plaisir sur les marchés, dans les commerces de bouche? Vous l'avez compris, ce lien quasiment religieux entre la France, les Français et leur gastronomie, leur cuisine?
Tout à fait, oui. Je pense que j'ai vécu dans bon nombre de pays et je n'ai nulle part vu des gens ou une société qui soit si intéressée par la nourriture. Toute personne à qui vous parlez a un plat préféré, une nourriture préférée, un ingrédient préféré. Et donc, pour comprendre la culture française et la société française, c'est impossible sans comprendre en fait ce respect et cet intérêt pour la gastronomie. Et je crois que c'est effectivement l'une des plus grandes divisions entre les États-Unis et la France. Mais je pense que c'est pour ça, en fait, aussi que les Américains pensent tant ou tant de bien de la gastronomie française.
Mais est-ce qu'on sait, justement, alors, est-ce qu'on a trouvé l'origine de notre obsession de la bouffe, à nous, les Français? Est-ce que vous êtes allé jusque-là dans votre recherche historique? D'où ça vient?
L'origine de cette obsession, c'est vrai que c'est une bonne question. Là, j'ai pas de réponse, mais je pense qu'on, en fait, finalement, quand nous recherchions le livre, c'est, je crois que l'origine, elle vient depuis le début de notre histoire, finalement, où aussi qu'il y a eu tellement de gens qui ont été obsédés par la nourriture. Et puis c'est vrai que comme on l'expliquait, juste les grands chefs français, et c'est vrai comme Carême ou Escoffier, qu'on finalement fait tant, qu'on codifié et qu'on fait tant aussi pour exporter aussi même la cuisine française à travers le monde finalement. Et voilà, je crois que c'est pas surprenant.
Parce qu'il y a une transmission aussi par les livres en France, très tôt. Il y a eu aussi l'Italie de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'en France, très tôt, il y a eu des livres de cuisine par rapport à d'autres peuples. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est ancré véritablement chez nous.
Et est-ce que c'est pour notre diversité agricole, par exemple? Parce qu'on a justement, on fait beaucoup de choses, donc on peut cuisiner beaucoup de choses.
Oui. Oui, alors tout à fait, c'est vrai que c'est extrêmement impressionnant le nombre de terroirs qu'il y a en France. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas ou pas à ce niveau-là dans d'autres pays. Qu'en France, on a un terroir différent, qu'on aille en Bretagne, qu'on aille en Provence, qu'on aille au Languedoc, qu'on aille dans le nord de la France, en Alsace. Il y a partout des terroirs. Et partout, il y a des gens qui sont fiers de leurs produits, qui sont fiers de ce qu'ils font. Et que ce soit au niveau agriculture, que ce soit au terme de cuisine. Donc voilà.
On est un vrai pays de cocagne, on a des facettes maritimes incroyables, on a des terroirs très différents. Effectivement, ça aussi, ça ajoute à cette surabondance et de produits et de recettes. On a vraiment quelque chose d'unique. C'est ce patrimoine-là qu'il faut d'ailleurs absolument préserver.
Alors, vous rétablissez dans votre livre la vérité sur l'origine de certains plats célèbres. On reviendra tout à l'heure sur le cas du cassoulet. Oui. Qui est absolument passionnant. Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000. N'hésitez pas à partager de savoureuses anecdotes autour de plats de vos régions. Merci à la traduction ce matin de Pascal Faugère. Alexia Rivière, Claire Destacan et Julia Macarès m'ont aidé à préparer cette émission, réalisée par David Leprince. Écoutons une chanson de 1964. Cette année-là naissait Valérie Lemercier et disparaissait le créateur de James Bond, Ian Fleming. Belle journée à l'écoute de France Inter.
Nous avions tous deux un rendez-vous amoureux, mercredi à 8h dans ma demeure. Il y avait sur une nappe blanche brodée, mais il y avait du caviar sur des toasts beurrés. Il y avait du pain bis, des hors-d'œuvre variés. Il y avait un faisan rôti sur canapé. Il y avait un magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, il y avait du fromage, des fruits, des sablés. Il y avait de la liqueur et du café, du Brésil. Le temps a passé et quand minuit a sonné, j'avais si faim vraiment que bêtement, attablé, seul devant ta place inoccupée, j'ai mangé le caviar sur les toasts beurrés. J'ai mangé le pain bis, les hors-d'œuvre variés. j'ai mangé le faisan rôti sur le canapé. J'ai vidé le magnum de champagne frappé, éclairé par quatre bougies allumées. Sur la table, j'ai mangé le fromage, les fruits, les semblés. Arrosé par la liqueur et le café du Brésil. Te trompant de jour, le lendemain, mon amour, quand tu vins à 8 heures dans ma demeure, il restait sur une nappe blanche tachée, il restait les reliefs d'un repas consommé. Le caviar, les hors-d'œuvre, envolés. Le faisan n'était qu'un petit tas d'os rongé. Le magnum avait un air de fête passée. Les bougies étaient tordues et consumées. Sur la table, il restait quelques fruits, des miettes de sablé. La liqueur et le café qui était glacé du Brésil. Je n'avais plus rien et pour tromper notre faim, nous avons décidé de nous aimer.
Charles Aznavour interprété sur la table.
Je veux une entrecôte frite.
Et moi, je veux un bœuf carotte frite.
Et moi, entrée, je veux un hareng avec des frites.
Grand bien vous fasse.
Je vous propose une mousse de courge butternut au domino en gelée de châtaigne avec des petites ravioles de tomates posées sur une feuille de chêne.
Sur France Inter.
Et c'est servi avec des frites ou...
10h24 et je vous propose de partager quelques histoires et légendes de notre cuisine quotidienne nationale avec Jenny Mitchell et Stéphane Hénaud qui publient une savoureuse histoire de France à pleines dents avec la complicité ce matin gourmande de Nathalie Ella, les deux guillemets Odissino.
À table, il y a du sanglier qui vient d'arriver par galère.
Oh, j'ai faim.
Donne-nous de la cervoise en attendant.
La cervoise d'Astérix.
C'est un vin comme tu n'en trouveras nulle part ailleurs.
Château Pétrus.
J'en peux plus, moi. Des Bretons, des Gaulois, des ivrognes.
Ah bah là, il n'y a pas plus typique, hein. C'est de la viande de cerf mijotée dans le miel.
C'est le plat breton typique.
C'est meilleur chaud.
C'est du miel, je me régale le gosier.
C'est pas du miel, c'est du chocolat.
Le roi vous adresse ses compliments et réclame la faveur de prendre un chocolat avec vous dans votre chambre à minuit.
Puis-je me permettre de vous féliciter?
J'ai pour ma part une petite faim.
Foie gras truffé.
Des Périgord, donc de chez moi.
Prince, vous savez vivre.
Une habitude, monsieur Fouché.
Il est de tous les grands festins. C'est lui qui, grâce à son odeur, a porté le Poitou à l'honneur. Nos braves chabis pendant la guerre ont repoussé l'ennemi hors de la frontière.
Qu'est-ce que vous diriez d'un cassoulet?
La guerre est déclarée entre Castelnaudary et Toulouse.
Le mot de cassoulet, langue d'ossienne, mais ça se fait également dans le Comminges, par exemple, on l'appelle la pistache.
Ben, quand vous irez chez le père Coutel, qui est un amour, je l'adore, eh ben, vous lui demanderez un cassoulet mistinguette.
Alors, mets-nous un coup de chablis pour noyer notre chagrin, Michel.
Si l'on veut avoir du bœuf royal, il faut d'abord avoir un veau.
J'ai quand même fait des dîners privés où on lui faisait de la tête de veau et où il se resservait quatre fois.
Allez, n'oubliez pas, dans la vie, l'important, c'est l'appétit.
Medley signé, Claire Destacant. Alors, dans votre livre, Stéphane Hénaud, Jenny Mitchell, vous rétablissez la vérité sur l'origine de certains plats célèbres. Je pense, par exemple, au cassoulet de Castelnaudary. Mm-hmm. Quelle est la légende la plus tenace qui colle à ce célèbre ragoût à base de haricots blancs et de fèves, au départ, oui. Stéphane Hénaud.
Oui, alors, la plus célèbre légende, c'est celle qui se déroule en 1355, en plein milieu de la guerre de Cent Ans. Et pendant cette guerre de Cent Ans, donc, la ville de Castelnaudary était assiégée par les forces anglaises, dirigées par le prince noir. Et alors, selon la légende, ce siège aurait duré plus de 10 mois. Et après 10 mois de ce siège, à Castelnaudary, ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent. Puis finalement, ils ont décidé de rassembler tout ce qui leur restait, c'est-à-dire quelques fèves ou haricots blancs et du porc, et le mettre tout dans une casserole, le faire mijoter toute la nuit. Et le lendemain, ils ont commencé à goûter ce plat, qui était donc le premier, on va dire, cassoulet, hein, selon la légende. Et ce plat les a tellement revigorifiés qu'ils ont chassé donc les Anglais en dehors de leur siège, mais pas seulement ça, ils ont réussi à les chasser jusqu'à la Normandie et puis les rebooter à travers la Manche en Angleterre. Donc ça, je dis, c'est bravo le cassoulet, bravo la potion magique, en fait, du cassoulet. Et voilà, ça c'est pour la légende. La vérité, c'est pas tout à fait
et
pareil.
Et la vérité, Jenny Mitchell, sur le cassoulet, alors
Malheureusement, la vérité n'est pas si amusante, hein, particulièrement pour les gens de Castelnaudary. Ils avaient été donc attaqués par ce prince noir, mais la ville a été prise, beaucoup de gens avaient perdu leur maison. Et c'est un très bel exemple qui montre que même si les origines du cassoulet viennent bien de la région de Castelnaudary, hein, ou des alentours proches, mais vraiment, la légende n'est pas la vérité, n'est pas l'histoire. Hein. Et on a, dans nos recherches, c'est quelque chose, un fonctionnement qu'on a retrouvé un peu partout. Hein. Et quand on cherche ces légendes, elles ont duré pendant des siècles, et quand on cherche la vérité, c'est différent. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces légendes existent, hein, et l'existence même de ces légendes dit quelque chose des gens. Ça révèle quelque chose de leur vie et de qui ils sont.
Qui a inventé le bol en terre cuite qu'on appelle la cassole, Stéphane Hénault ?
Alors la cassole, voilà, qui est utilisée pour faire le cassoulet, a été inventée au XIVe siècle à côté de Castelnaudary, dans la ville d'Isselle, sûrement par des artisans italiens. Et donc, ce qui donnerait finalement peut-être crédit à l'idée que Castelnaudary pourrait être l'inventeur du cassoulet potentiellement.
Vous dites ça aux Toulousains que je suis.
Oui, je dis ça aux Toulousains.
Non, non, je suis très contente, moi. Ma famille, elle est près de Castelnaudary. Je suis sûr que, on ne plaisante pas avec le cassoulet, hein.
Alors, par contre, je crois qu'il y a Prosper Montaignier qui disait que le cassoulet, c'est le dieu occitan de la cuisine. Et que Dieu le Père, donc c'est Castelnaudary. Dieu le Fils, c'est celui de Carcassonne. Et le Saint-Esprit, c'est celui de Toulouse. Et je crois que c'est peut-être la bonne manière de régler ce problème.
Oui, ça réconcilie tout le monde.
Mais
est-ce qu'en revanche, il y a des petites nuances entre ces différents cassoulets?
Oui, il y a des petites nuances. Alors sur régions, le cassoulet de Toulouse, bien sûr, on va mettre les saucisses de Toulouse. Sur celui de Carcassonne, on aura peut-être plus tendance à mettre des perdrix éventuellement, plus d'oies finalement peut-être à Castelnaudary.
Nathalie Lal.
Bon, après... Je crois que vous êtes plus expert, ça.
Non, vraiment pas expert du tout en cassoulet, parce que pas du tout de Toulouse. Et non, vraiment, je pense que c'est quelque chose... J'aurais vraiment aimé connaître l'histoire de cette légende. Comment ça s'est construit? Je crois que personne n'aura la réponse aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, ce qui est beau, c'est que ça perdure et que on croit toujours que chacune des trois villes pense avoir la vérité ultime et le Graal de la recette.
En tout cas, c'est joli de faire d'un plat un plat victorieux, alors qu'à l'évidence, il ne l'était pas.
Voilà, enfin c'est bien de transformer cette défaite finalement en victoire, et puis c'est joli quoi, c'est bien pour la fierté locale. Et puis le prince noir, il avait une réputation quand même terrible aussi dans le sud-est, il a toujours, hein. Donc finalement c'est bien d'avoir cette histoire où finalement il a été battu.
Alors dans le medley de Claire Destacan, on a entendu Ségolène Royal qui défend le chabichou en juin 1990. Le chabichou, ce fromage de chèvre en forme de tour penché recouvert d'une fine croûte ondulée, il est fabriqué dans la région de Poitiers et bénéficie d'une AOC, je parle sous votre contrôle Stéphane Hénault, vous êtes fromager. Et selon la légende, le nom chabichou viendrait du nom arabe, du mot arabe chebli.
Alors chebli. Oui, ça c'est selon la légende, hein, selon la légende que les fromagers donc locaux racontent, ça viendrait donc de la bataille de Poitiers, donc les forces qui mettaient en...
8e siècle.
Oui, 732. Enfin, la date exacte, c'est pas toujours très clair, mais on va dire 732. C'est...
Entre le royaume des Francs et les armées du califat omeyyade.
Exactement. Et puis donc le royaume des Francs sous donc Charles Martel a battu donc les forces arabes. Et les forces arabes, elles avaient amené avec elles donc des chèvres pour se nourrir. Hein.
Chebli en arabe.
Et voilà. Et donc en l'occurrence, quand ils sont partis, ils ont laissé derrière eux finalement quelques chèvres et des gens qui s'occupaient des chèvres. Selon la légende, ces personnes auraient donc appris aux locaux comment faire du fromage de chèvre à partir de ces chèvres.
Ah donc ce serait le premier fromage de chèvre historique, enfin de l'histoire de France.
En France,
oui. Alors ça c'est la légende. Non, ce serait pas nécessairement le premier fromage en France. Hein. Il y a du fromage qui est fait certainement sous les Romains.
Mais de chèvre.
Oui, alors c'est pas sûr à 100%, mais je pense que déjà sous les Romains avaient déjà des chèvres en France certainement. Donc c'est plus sûrement du domaine de la légende, mais moi je trouve que c'est une légende très belle parce que finalement c'est souvent ce conflit de la bataille de Poitiers c'est présenté de manière très entre un conflit de civilisation, puis finalement la légende du chabichou c'est plus c'est pas un conflit, c'est plus une rencontre et c'est plus un enrichissement des civilisations.
Un apprentissage.
Donc moi je trouve que c'est un beau fromage en fait. C'est plus une histoire d'enrichissement culturel.
Il y a aussi une jolie légende qui concerne le Roquefort. Je ne sais pas
on
si
on y reviendra tout à l'heure sur le Roquefort.
Oui.
On va revenir sur le Roquefort tout à l'heure. Stéphane Hénault, je ne sais pas si vous aimez déguster votre chabichou avec un peu de miel d'acacia. En tout cas, l'une de vos boutiques préférées à Nantes, où vous vivez, vend du miel.
Oui, alors. C'était Jeanne surtout qui avait été très très impressionnée qu'à Nantes on ait une boutique qui vendait énormément de miel différent.
Pourquoi vous étiez étonnée, Jenny Mitchell, par une boutique spécialisée dans la vente de pots de miel? Qu'est-ce qui vous étonnait?
Je pense qu'aux États-Unis, on peut acheter du miel au supermarché. Hein, voilà, il va y avoir 3-4 types très similaire. Et la première fois que je suis rentrée dans un magasin en France qui vendait que du miel, il y en avait à peu près une cinquantaine. Il y en avait des très très pâles, il y en avait qui étaient marron très très foncé, liquide ou pas. Et j'étais là, hein, je me suis arrêtée en état de choc pratiquement. Hein. Et la chose que j'ai appris en écrivant ce livre, hein, c'est que le concept de terroir ne s'applique pas seulement au vin, ça s'applique au miel, ça s'applique au fromage, au sel. Et c'est quelque chose qui est, une fois de plus, unique à la France. Hein, et c'est pour ça que j'aime tellement la gastronomie française.
Alors, vous parlez de sel qui fut, le sel qui fut un impôt, oui. Mais le miel aussi, Stéphane Hénault.
Oui, alors le
sous miel, Charlemagne.
Oui, alors sous Charlemagne, Charlemagne en fait a fait beaucoup pour la culture du miel en France. Hein.
Il a, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a imposé en fait d'avoir des ruches dans la plupart des domaines royaux. Et donc ce qui a permis de développer le miel en France. Et il prenait bien sûr, il y avait une taxe qui était imposée donc sur ce miel, hein,
l'abeillage.
Voilà.
Et, l'abeillage.
L'abeillage. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on parle un peu de cette histoire et puis on parle de Charlemagne en fait en l'occurrence aussi. Et oui.
Oui, pardon, non. Il y a un texte fondateur de Charlemagne, c'est le Capitulaire de Vilis, dans lequel il donne carrément des consignes, même pour les potagers. Il ordonne plus de 70 espèces de plantes, arbres fruitiers doivent être cultivés. Il le précise, il est extrêmement précis, pédagogue dans son Capitulaire de Vilis. Et c'est vrai qu'on sent que c'est une préoccupation agricole à l'époque du Royaume de France.
Oui, parce qu'à l'époque, le Royaume de France, bien sûr, c'était l'agriculture, c'était l'industrie principale. Et c'est même dans ce Capitulaire de Vilis qu'on parle aussi de miel. Hein.
Et de fleurs aussi.
Oui.
Alors les Français connaissent une longue lune de miel avec les fruits.
Oui.
Nous en produisons 2,5 millions de tonnes par an, toutes variétés confondues. Et notre goût français pour les fruits se retrouve dans de nombreuses expressions, Stéphane Hénault.
Oui, ça se retrouve presser le citron, couper la poire en deux,
muffiner
les raisins, avoir la pêche.
Entre la poire et le fromage.
Ne
pas compter pour des prunes. Alors c'est vrai qu'on parle de cette expression, donc c'est l'expression qu'on utilise dans notre livre. C'est vrai que c'est une expression qui peut paraître bizarre, parce que finalement les prunes, on adore ça en France, hein, c'est pas quelque chose qu'on n'aime pas.
D'où ça vient alors cette expression?
Ça vient des croisades. Et en fait, les prunes, une variété de prunes a été découverte par les Templiers puis les Croisés lorsqu'ils étaient, ils avaient un siège à Damas, je crois en 1148. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert les prunes de Damas. Ils ont ramené en France. Et au final, toute l'histoire des croisés, ça s'est terminé comme on le sait. Tous les croisés sont revenus. Les Templiers, ils ont été brûlés pour la plupart sous Philippe le Bel. Et donc, ne compter pour des prunes, au final, c'est un peu tout ce qu'ont ramené les Templiers en France de toute cette épopée. C'est juste des prunes. Et c'est pour ça que l'expression « compter pour des prunes » vient de ça.
Nathalie Hélal.
Sans les croisés, on n'aurait pas eu non plus la canne à sucre, ni le sucre, le fameux roseau gorgé de miel.
Oui.
Donc, il y a eu les prunes, mais aussi le sucre pour les cuisiner ensuite et pour en faire des confitures.
Oui,
grâce aux croisades.
Oui.
Chapitre consacré au sucre dans votre livre, Stéphane Hénault.
Oui, alors on a un chapitre consacré au sucre et le commerce triangulaire, donc le traite d'esclaves. Hein. Il faut savoir qu'en France, au 17-18e siècle, hein, le commerce d'esclaves, hein, le commerce triangulaire, c'était principalement aussi pour amener des esclaves donc à Saint-Domingue et puis à Guadeloupe, etc., pour produire du sucre. 40% de la production de sucre mondiale était faite à Saint-Domingue, donc à Haïti actuellement à l'époque. Et c'était extrêmement important pour... c'était un commerce extrêmement important pour la France à l'époque. Je crois que plus de 20 000 tonnes de sucre venaient à Nantes tous les ans pendant cette période-là.
Alors nos sucreries viennent quand même un peu de notre violence en fait. Alors on est
l'histoire du sucre débute avec cette violence. Bon après par contre les sucreries actuelles, c'est plus aussi le sucre de betterave et tout ça plus de nos jours qu'on mange de toute manière. Et voilà.
L'histoire du sucre de betterave en France, elle a commencé en dessous de Radio France. Vous savez cette anecdote.
Expliquez-nous.
Bien sûr, on est dans le blocus, en plein blocus continental en 1809. Napoléon Bonaparte a envie d'asphyxier les Anglais. Donc pour asphyxier les Anglais, il y a un blocus. Sauf que il se bloque lui-même. Il n'y a plus de sucre de canne qui arrive non plus dans les ports français. Il cherche un ersatz au sucre. Et Benjamin Delessert, qui est une sorte d'industriel, reprend les travaux d'un chercheur silésien et développe le sucre de betterave dans ces usines qui sont situées à Passy, donc exactement à l'emplacement de la maison de la radio, qui sont à l'époque des filatures, et ça se transforme en raffinerie de sucre de betterave. Benjamin Delessert est décoré par Napoléon, et puis c'est le début d'une grande aventure du sucre de betterave en France.
Alors, quels sont les liens entre les véganes d'aujourd'hui, les végétariens, et les cathares d'hier? Jenny Mitchell.
Today and at this time.
Yes. One of the interesting things as well about
Une des choses intéressantes, en fait, quand on vit en France, c'est de découvrir qu'être végétarien en France, être végan particulièrement, être végétalien, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais c'est, quand on fait ces recherches-là, intéressant de voir que c'est si difficile, ce type de régime. Et une manière qu'on a eu d'approcher cette question, c'était de regarder un chapitre très triste en fait de l'histoire de France, c'est lorsque les cathares vont être persécutés dans le sud-ouest de France et ils vont donc être dominés par l'État français et une des choses qui a été utilisée par l'Inquisition pour rechercher les leaders de cette insurrection cathare, c'était de voir qu'ils ne mangeaient pas de viande, ils survivaient sur des légumes et du poisson. Et donc, les gens du tribunal de l'Inquisition, lorsqu'ils faisaient leurs enquêtes, disaient « Est-ce que vous avez vu cette personne manger de la viande ?» Et lorsque quelqu'un était supposé ne pas manger de viande, mais manger seulement du poisson et des légumes, on disait « Voilà, cette personne... » Mais je crois que d'une certaine idée, ça permet de voir comment, d'une certaine manière, avaient été considérés déjà à l'époque des gens qui ne mangeaient pas selon la norme.
Et aujourd'hui, certains consommateurs de viande considèrent les véganes et les végétariens comme des hérétiques, Stéphane Hainaut.
Oui, peut-être toujours encore, oui. Alors moi, je mange de la viande. On est tous les deux des mangeurs de viande. Mais moi, par contre, j'ai pas de soucis si on est végétarien. Très bien. Je pense que c'est vrai qu'on mange peut-être trop de viande actuellement par rapport à ce qu'on devrait en termes de coûts écologiques. Moi j'aime bien la viande quand même, donc je ne vais pas m'en passer maintenant.
Allez, n'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Cassius. Cassius et Hall, interprété Don't Let Me Be.
Vous aimez les rognons ?
J'aime beaucoup la charcuterie.
Grand bien vous fasse.
Ça va pas être gras, ça ?
C'est les rognons de pain ?
Oui, il dit que c'est très fin.
Sur France Inter.
10h43 et je vous propose de partager quelques histoires et légendes de notre cuisine quotidienne hexagonale avec Jenny Mitchell et Stéphane Hainaut qui publie Histoire de France à pleines dents, et avec nous également les journalistes spécialistes d'histoire gastronomique Nathalie Hellal et la gastronome, oui on peut le dire, et la reine de la blanquette Guillemette Odissino. Coup de projecteur tiens sur un fromage très salé, hein, le Roquefort.
Ouais, oui.
Il était une fois Stéphane Hainaut. Il était une fois un berger.
Il était une fois, oui. Alors il y a l'histoire,
raconter la légende,
Hein, la légende du Roquefort. On peut commencer par là.
Un berger amoureux,
Amoureux qui était dans sa cave et qui donc avait ses moutons. Puis il commençait à manger un bout de pain et un bout de fromage quand au loin il aperçut sa belle. Et il décida donc de sortir de sa grotte, de courir après son amoureuse. Et un jour plus tard ou deux jours plus tard, il revient dans sa grotte, il se rend compte que son bout de pain et puis son bout de fromage, ils ont commencé à moisir. Il a quand même faim, après toutes ces aventures, on va dire, amoureuses. Et il mange son bout de fromage. Et c'est donc, ça serait, selon la légende, hein, le premier fromage de Roquefort créé.
Alors, voilà. Le Roquefort est l'un des fromages préférés des Français. Un fromage vieux de 2000 ans, très tôt apprécié des élites. Et les habitants de Roquefort doivent une fière chandelle au roi Charles le Fou. Pourquoi ?
Oui, parce que Charles le Fou...
Au 15e siècle.
Oui, Charles le Fou, c'est... en fait, il y a une ordonnance qui protège... le Roquefort et qui protège le nom de Roquefort et puis dit que le Roquefort vrai doit être donc fabriqué à Roquefort. En fait, c'est un peu, on peut dire, un ancêtre de l'AOP moderne.
En 1411.
Oui, tout à fait. Et donc oui, c'est intéressant de voir que finalement le concept d'AOP c'est un concept très très français.
D'appellation d'origine protégée.
Voilà, hein, qui décrit où un certain produit doit être fait, quel type de lait peut être... Alors pour les fromages, c'est généralement quel type de lait peut être utilisé, combien de temps il doit être affiné, etc. etc. Et c'est un concept très très français. Et bon, c'est intéressant de voir que même déjà au 15e siècle, finalement, même un roi fou pouvait penser que ce serait une bonne idée d'avoir cette idée-là déjà.
Guillemette Odissino.
Mais puisque la légende de l'amoureux, hélas, s'écroule. Oui. Mais comment, à un moment, quelqu'un pense à faire moisir du fromage et se dit tiens, c'est bon. Non, mais enfin, c'est quand même c'est quand même un concept. C'est une normalement, je pense que dans l'esprit des gens à cette époque, c'est une dégradation, le moisi. Et là, en fait, ça passe. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Pas si bête, votre question,
mais
Guillemette.
Mais non, mais pardon, mais pas...
C'est le bon sens près de chez vous, Guillemette. J'adore.
Stéphane Hainaut, fromager.
Alors, pourquoi on a commencé à manger du fromage bleu, je peux pas vous dire. Mais bon, par contre, je pense qu'il y a aussi une époque où, finalement, il fallait peut-être moins faire les difficiles qu'aujourd'hui. Et que, s'il y avait un peu de moisissure qui se créait dans le fromage, on l'aurait peut-être mangé. Mmh. Il y a une histoire aussi qui parle de Charlemagne, qui a un jour mangé du fromage bleu et qui, finalement, lui aussi, au début, faisait le difficile. En fait, il rentrait d'Espagne, il retournait à Aix-la-Chapelle. Et il s'arrêtait chez un évêque qui lui présente un jour de jeûne, un jour maigre. Donc il lui fait manger du fromage. Et c'est un fromage où il y a des moisissures dedans. Et Charlemagne, il commence à enlever tous les bouts de moisissures. Et l'évêque lui dit, mais non, vous êtes en train d'enlever
le meilleur.
Et à partir de ce moment-là, Charlemagne, il commence à manger ce fromage. Et puis d'ailleurs, après, il demande à l'évêque de lui envoyer ce fromage tous les ans à Aix-la-Chapelle, tellement il le trouve bon.
Nathalie Hellal.
Non, j'ai une question au fromager, vraiment, je m'adresse à vous en tant que fromager. Le bleu de Gex, la fourme d'Ambert, le bleu de Termignan, tout ça, c'est après le Roquefort?
Voilà, je vais pas me lancer dans ce débat.
Non, mais je vais pas me lancer dans ce débat. Pour satisfaire ma curiosité, parce que vraiment, je m'interroge sur les origines de ces fromages bleus, parce qu'il y en a eu plein finalement. Il n'y a pas que le Roquefort.
Oui, il y a plein de fromages bleus. Mais alors après, c'est dur. En fait, c'est extrêmement dur de savoir exactement quand est-ce qu'un fromage a réellement été créé dans sa forme actuelle. Ouais. Et je crois qu'en fait, c'est impossible pour aucun des fromages de savoir exactement. Même le fromage que Charles le Fou a protégé à Roquefort, c'est même dur de savoir en fait est-ce que c'était le fromage,
oui,
le
ça.
Même type de fromage. Donc je crois que des sources plus anciennes que le que généralement 18e ou 17e siècle, où on peut être presque assuré que c'est le même fromage, c'est plutôt rare.
Alors votre livre montre bien le rapport compliqué entre Paris et la province. Alors, d'ailleurs on ne dit plus province, mais région ou territoire. Ah. Les cuisines régionales ont longtemps été décriées, méconnues, et le grand historien anglais Théodore Zeldin écrit que dès le début du 19e siècle, un conflit mettait aux prises la centralisation jacobine, désireuse de créer un style national de cuisine, et la spécificité régionale. Jenny Mitchell, je m'adresse là à l'historienne, sur le conflit entre la cuisine régionale, les cuisines régionales, et une cuisine nationale unifiée.
Alors ça, c'était une des choses les plus intéressantes pour moi, pour quelqu'un qui faisait des recherches en tant que non-française, et c'était d'apprendre donc sur ce qu'étaient les cuisines dans toutes les régions. Hein. Voilà, les étrangers pensent toujours qu'il faut aller à Paris pour avoir la meilleure cuisine. Hein. Et on n'a pas cette connaissance des cuisines régionales, de du Languedoc, de la vallée de la Loire, de la Normandie. Et je pense que cette connaissance en fait des cuisines régionales est quelque chose qui grandit parce que aujourd'hui aux États-Unis on commence à avoir une meilleure appréciation d'une cuisine plus artisanale et locale. Mais je crois que ce qui s'est passé, c'était l'impact de la technologie, les progrès dans les transports qui ont aussi permis d'apprécier davantage cette cuisine régionale. Hein. Et on a vu comment en fait le train a rendu les déplacements plus faciles à la fois des marchandises et des gens et permis aux gens de voyager, hein. Et donc il y avait cette invention du terme de gastronomade, hein, et c'est quelque chose qui a été inventé en France.
Stéphane Hénaud.
Oui, alors c'est vrai que l'histoire de Kurnonsky. Kurnonsky, donc c'est un écrivain gastronomique, hein, et qui a mis à jour le terme gastronomade, que je trouve que c'est un très joli mot, hein, qui exprime en fait que lui, il commençait à écrire sur tous ses gastronomies au moment d'année où l'automobile commençait à se développer, et donc il pouvait découvrir toutes ces différentes régions de France. Et pour lui, d'ailleurs, la capitale gastronomique de la France, c'était pas Paris, hein, c'était Lyon. Il y a des histoires, une histoire savoureuse d'ailleurs sur le cassoulet, où il décrit qu'il est allé justement spécifiquement à Castelnaudary pour goûter un cassoulet, et que là on lui dit, mais non, là vous venez trop tard, faudra attendre au moins 15 heures, le temps qu'il mijote, faut le goûter, voilà, etc. Et il a tout plein d'histoires sur des régions et sur différentes régions, leurs différentes cuisines. Et...
Précision de Nathalie Hélal.
Oui, juste une petite précision. Je pense qu'un siècle plus tôt, il y avait Alexandre Balthazar Grimaud de la Reynière, qui a été le premier, finalement, grand critique gastronomique de l'histoire, et qui, avec son almanach des gourmands, a montré déjà toute cette diversité régionale. Il n'a pas attendu Kurnonsky, heureusement, pour laisser une trace.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Roland Barthes à propos des frites dans ses mythologies? Les frites sont le signe alimentaire de la francité. Stéphane Hénaud.
De la francité. Oui, alors de la francité en comptant la Belgique.
Hein. Oui, c'est ça. Oui.
Alors dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, oui. Si on peut, oui.
Mais oui, parce que le mystère plane sur l'invention de la frite que l'on appelle French fries aux États-Unis.
Oui, alors French fries aux États-Unis, apparemment, ça serait que finalement, alors l'idée, ça serait que ce soit des GIS qui soient allés, qui aient découvert des frites. En Belgique, et vu qu'on parlait français là-bas, ils se sont dit que ça doit être c'est français, et puis du coup, c'est pour ça qu'ils l'ont ramené sous le terme French fries. Donc ça serait peut-être pour ça que le terme French fries a pris aux États-Unis.
Nathalie
Hélal. C'est, paraît-il, Thomas Jefferson, troisième président de l'histoire des États-Unis, si je ne me trompe pas, je parle sous contrôle d'une Américaine, qui aurait ramené aussi les frites aux États-Unis, parce que Thomas Jefferson était très friand de saveurs européennes, il a fait certains voyages, il était fou aussi de cuisine italienne, on sait qu'il a même ramené des dessins d'une machine pour fabriquer des macaronis. Et concernant la frite, eh bien, il l'aurait ramené aussi aux États-Unis, donc bien avant les GI.
Jenny Mitchell, vous confirmez ?
C'est son chef, en fait, hein, qui a sans doute ramené une version des frites. Hein, je crois qu'ensuite, ils ont plutôt donné ce crédit au chef, hein, plutôt qu'à Jefferson. Mais c'est peut-être pas très clair non plus, en fait, cette légende.
On ne saura jamais quel est le premier mec qui a pensé à balancer les pommes de terre dans de la friture. Non, mais c'est un génie. C'est bête.
C'est bien aussi.
Ne pas tremper les frites dans une sauce, c'est inimaginable pour de nombreux Français. L'amour des Français pour les sauces n'est plus à démontrer, Stéphane Hénault. Un joli chapitre consacré aux sauces dans votre livre.
Oh mon Dieu, oui, les sauces en France, c'est tout un monde. Hein. On en fait à toutes les sauces.
Est-ce que la grande majorité des sauces françaises modernes datent de la fin du XVIe siècle, c'est ça?
Oui, alors la plupart des sauces françaises modernes, on peut dire que ça commence à partir du XVIe siècle. En fait, avant, les sauces médiévales, c'était des sauces qui avaient énormément de vinaigre ou de verjus, qui étaient très très acides en fait, et qui utilisaient énormément d'épices qu'on connaît pas aujourd'hui, comme le graine de paradis ou galanga ou différents produits. Et c'est à partir du XVIe, XVIIe siècle qu'en fait la plupart des sauces commencent à utiliser plus de beurre, plus d'huile et plus finalement d'aromates locales, l'ail. Échalotes, ciboulettes, etc.
Et au 19e siècle, le légendaire cuisinier Carême identifie 4 sauces mères. L'allemande, la béchamel, l'espagnole, le velouté.
Carême, ce serait 18e siècle.
Il est né en 1783, mais
oui, 19e, voilà.
Le légendaire cuisinier Carême identifie donc 4 sauces mères, oui. L'allemande, la béchamel, l'espagnole et le velouté, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est à partir de ces sauces mères qu'on peut faire aussi...
Mais c'est quoi l'allemande et l'espagnole?
Oh là là, mon Dieu, la sauce allemande, plus tard, en fait, Escoffier a finalement recodifié ces sauces. Et les a mis en fait 5 sauces mères, et en fait il a démoté la sauce allemande, donc c'était plus une sauce mère, hein, il n'était pas parti.
Escoffier a ajouté la sauce hollandaise et,
voilà,
et la sauce tomate.
La sauce hollandaise il a rajouté sauce hollandaise et sauce tomate, qui d'ailleurs c'est qui est bien, parce que sinon ça aurait été difficile de faire
Je rappelle le mot de Talleyrand qui aurait dit, hein, c'est peut-être apocryphe, l'Angleterre a 3 sauces et 300 religions, la France au contraire a 3 religions et 300 sauces.
Voilà, c'est une c'est un peu pour expliquer la complexité des deux pays.
Jenny Mitchell, on peut dire que les sauces sont l'âme de la cuisine française. Je parle à l'américaine.
Comme une américaine, oui, ça, je le vois comme ça, hein, et même chez nous, je suis incapable de faire une sauce correcte, mais mon mari, par contre, s'y entend. Hein. Je crois que c'est avec les sauces, leur origine, on voit d'une certaine manière un peu l'histoire. C'est pas seulement quelque chose qu'on met sur l'assiette, c'est quelque chose qui parle de la société, hein. Et aujourd'hui, par exemple, on parle de la mayonnaise végane, hein. Et voilà. Et on voit bien, en fait, que la sauce nous permet, nous donne l'histoire, en fait.
Alors, elle dit qu'elle savait pas faire de sauce. Elle a quand même appris à faire une très très bonne mayonnaise. Alors qu'elle était en France, hein. Surtout qu'elle parle de mayonnaise végane et tout ça.
Alors, pas
de
mayonnaise végane. On peut pas terminer cette émission sans un rituel. Le rituel du dimanche matin, c'est l'achat du croissant chez le boulanger. Le croissant, cette délicieuse bombe calorique qui apparaît dans le monde entier comme l'une des spécialités françaises, et qui pourtant, son origine, elle est pas française.
Oui, elle est pas française. Alors il y a plusieurs légendes, et c'est vrai que c'est un symbole de la France. Hein. C'est vrai que l'idée d'acheter un croissant, on se dit, c'est ce que les Français font ça tous les matins. On appelle ça des viennoiseries.
Donc.
Et voilà. Et en fait, ça a son origine vraiment à Vienne. Hein. Alors il y a plusieurs légendes qui nous disent que ça vient de Vienne. Alors c'est des légendes, mais qui sont intéressantes aussi. Une légende voudrait que ce soit lors du siège de Vienne en 1683. Par les forces ottomanes, que des boulangers autrichiens ont créé en fait le croissant en hommage à leur rôle en pied de nez au croissant ottoman. Et une autre légende voudrait que ce soit Marie-Antoinette, la reine donc de Louis XVI, qui aurait ramené des croissants en France. Bon, les deux, c'est plus certainement des légendes. La vérité, ce serait plus qu'au milieu du 19e siècle, un boulanger autrichien se soit en fait installé à Paris et ramené là des spécialités autrichiennes qu'on nommait donc du coup viennoiserie. Et c'est lui qui aurait ramené donc les premiers croissants en France à ce moment-là.
Oui, il s'appelait Auguste Tsang, je crois, hein, ce pâtissier boulanger qui s'est installé en France. Mais en réalité, les croissants viennois à la base n'étaient pas faits de pâte feuilletée, parce que la pâte feuilletée est une invention typiquement française, qui date du XVIIIe siècle, qui aurait été peut-être l'œuvre du peintre Le Lorrain, qui s'appelait dans l'état civil Claude Gelée et qui était aussi boulanger.
Alors, on n'a pas le temps d'évoquer les contributions culinaires de Catherine de Médicis à la cuisine française. En tout cas, je recommande vraiment ce livre passionnant, Histoire de France à pleines dents, sous-titré Le Grand Roman National Savouré. C'est publié chez Flammarion. Merci beaucoup, Stéphane. Fanéno et Jenny Mitchell. Merci beaucoup. Guillemette Odissino, vous vouliez conseiller un DVD pour
oui,
ce week-end?
Oui, un DVD, ça, et c'est en VOD aussi, c'est partout. C'est Julia et Julia de Nora Ephron, parce que ça raconte le coup de foot de Julia Child, qui a fait après un grand bouquin, le premier bouquin américain sur la cuisine française. C'était une Américaine, elle était un peu désœuvrée, elle est tombée amoureuse du beurre. De la France avec.
On la comprend.
Elle a appris à cuisiner et elle est repartie aux États-Unis et les Américains ont découvert, entre autres, grâce à elle, le bouffe bourguignon. Voilà.
Et merci à la traduction de Pascal Faugère. Stéphane Hénaud, vous êtes bien influencé parce que vous avez un léger accent anglo-américain quand même. Hein,
on me le dit souvent quand je reviens en France. Oui,
exactement.
Oui.
Merci beaucoup, Nathalie Ella, les Guillemette Odissino. Merci aux standardistes de France Inter et à la très belle programmation de Madame Muriel Pérez. La semaine prochaine, vous retrouverez Julia Foyce. Lundi, Julia s'intéressera au partage de la laverie au jardin potager. On partage tout. Standard ouvert dès 9h au 01 45 24 7000.